Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et on est de retour en ondes. Je vais laisser notre chroniqueur Jérémy nous présenter sa chronique sur la crise en mer Rouge. À toi, Jérémy.
Oui, content d'être de retour. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour la huitième fois en près de deux semaines, les États-Unis ont annoncé qu'ils ont détruit des missiles outils dans la mer Rouge. D'ailleurs, suite aux multiples bombardements, là, Joe Biden, actuel président américain, je pense que vous le connaissez tous. D'ailleurs, il brigue un nouveau mandat pour quatre autres années. On verra bien. J'imagine qu'il va y avoir une chronique là-dessus dans cette semaine. Je vous mets déjà l'eau à la bouche, j'imagine. Joe Biden a déclaré que les frappes allaient continuer, malgré que les frappes n'ont pas dissuadé les outils de faire des attaques dans le golfe d'Aden et la mer Rouge, donc qui proviennent et vont au canal de Suez. Donc, pour bien comprendre cette crise-là, je vais faire un petit moment géographique. Donc, on a la mer d'Arabie qui, elle, va donner sur le golfe d'Aden. Le golfe d'Aden est entre le Yémen, qui est situé au nord, Djibouti à l'ouest et la Somalie au sud. Ensuite, on a la mer Rouge. Donc, on a la mer d'Arabie, le golfe d'Aden, la mer Rouge qui est englobée de plusieurs pays, notamment l'Érythrée, le Soudan, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et Israël. Puis finalement, là, tout ça donne sur le fameux canal de Suez. Donc, le canal de Suez, là, c'est un canal hyper important pour la bonne fluctuation du commerce. Du commerce maritime, évidemment. Il représente environ 10% là, du commerce mondial total. On peut se rappeler, là, si jamais là, vous avez suivi un petit peu les nouvelles dans les dernières années, on se rappelle le porte-conteneurs, l'Evergarden, qui s'est échoué en 2021 puis qui a causé une obstruction pendant 6 jours. Ils ont estimé ces pertes-là de 6 à 10 milliards. Donc, une petite remise en situation, là, la crise de la mer Rouge là, est active depuis octobre 2023. Elle concerne les groupes armés houthis qui sont situés dans le nord du Yémen. Et la crise a été déclarée justement en réaction en partie par la déclaration de guerre d'Israël contre le Hamas. Donc, le Hamas, là, pour si on se souvient bien, c'est le groupe au pouvoir dans la bande de Gaza. Est reconnu comme étant terroriste par même pays occidentaux. C'est pas un groupe démocratique. Le Hamas a gagné les élections, justement, en bande de Gaza. Et suite à une petite guerre civile, ont justement enlevé tout processus électoral. L'objectif, là, des outils, en fait, ça serait de punir Israël pour ses opérations dans Gaza en solidarité, en fait, avec le monde arabe. Ça, c'est plutôt une façade, c'est plutôt un objectif façade. Là. Le réel objectif qui est tactique, en fait, c'est de perturber le commerce international et faire des dégâts du monde occidental. Qui sont, en fait, là, réellement les outils? Les outils, là, en fait, ce sont au Yémen depuis 2014, depuis, en fait, la guerre civile yéménite. Justement, ils ont su accroître leur force et leur capacité militaire depuis ces années-là, puis c'est grâce justement à l'aide iranienne. Les Houthis, en fait, font partie d'un groupe du nom de l'Axe de résistance. C'est une coalition informelle politico-militaire qui se positionne anti-Ouest et anti-Israël, donc anti-américaine. Tout ce qui touche à l'Ouest, ils sont anti ça, anti-Israël aussi. C'est écrit d'ailleurs sur le drapeau Houthis. Il y a d'autres groupes là, très connus justement qui font partie de l'axe de résistance, notamment le Hezbollah qui est au Liban, le gouvernement syrien ainsi que le Hamas. Donc ils font toutes partie de l'axe de résistance et l'axe de résistance est chapeauté et financé notamment par l'Iran. Cette coalition là, c'est ça, elle a permis justement aux Houthis de s'armer et de s'établir comme groupe légitime là, contrôlant justement le nord du Yémen. Donc les enjeux là, pour les Houthis en fait, c'est que ils sont vraiment au cœur, justement, de la crise de la mer Rouge, là, parce que, justement, eux, ils ont des objectifs, ils ont des enjeux qui les concernent. Fait qu'ils sont, en ce moment, en négociation de paix avec l'Arabie Saoudite pour une reconnaissance de leur contrôle, justement, sur le nord du Yémen. Ensuite, donc, c'est ça, c'est en lien avec la guerre civile yéménite. L'Arabie Saoudite, justement, est impliquée dans la guerre civile. Et là, après plusieurs années, là, ils finissent à arriver, justement, à une négociation de la paix, une reconnaissance justement des outils au Yémen. Ensuite, la guerre de Gaza, en fait, c'est une opportunité pour les outils, justement, C'est une opportunité pour l'UTI de démontrer leur légitimité sur la région. Donc, pas se laisser faire, en gros, par les puissances occidentales. Ensuite, de démontrer leur influence dans le monde arabe de la même façon. Puis c'est ça, les outils vont faire ça en détournant des bateaux commerciaux et en faisant des frappes à l'aide de missiles et de drones sur des multiples bateaux venant et allant dans la mer Rouge. Originalement, les outils ont dit qu'ils allaient faire seulement des frappes sur des bateaux s'arrêtant dans les ports d'Israël et sortant des ports d'Israël. En fait, là, en réalité, les frappes sont assez aléatoires. Ils sont indiscriminés, plutôt. Ensuite, pour les États-Unis, les enjeux, c'est... je dis les États-Unis, mais en fait, c'est pour tous les bateaux qui passent par là, vraiment. C'est plus de 40 pays là, qui sont affectés, justement, par la crise de la mer Rouge et qui perturbent, justement, la bonne... le bon transit, justement, des produits qui passent par bateau. En fait, c'est ça, la crise de la mer Rouge, ça force un détour par le cap de la Bonne-Espérance, là, qui est situé en Afrique du Sud, là, juste pour vous donner une idée. Donc, ils font tout le tour de l'Afrique, là. Ça rajoute une dizaine de jours de bateau en plus. Ensuite, c'est ça, il y a aussi une sécheresse, en fait, dans le canal de Panama, là. On change de région, mais tu sais, une sécheresse dans le canal de Panama qui réduit le nombre de bateaux qui peut passer là par jour, mais ça rajoute justement sur l'importance que la crise de la mer Rouge a justement sur le bon transit des biens. Fait que ça, en fait, ça cause une augmentation des prix, autant des assurances que le prix du transport, puis il y a une possibilité, en fait, que ça affecte le prix des consommateurs. C'est encore là, en fait, en ce moment, très difficile à prédire, là, justement, les impacts réels là, de tout ça. Donc, comme je disais, là, il y a une réaction justement de l'Occident. Il y a des frappes sur les outils et justement, même si les frappes n'ont pas découragé les outils de justement attaquer les bateaux, les États-Unis ont dit qu'ils vont continuer à le faire. C'est pas des frappes unilatérales en passant. Là, ils reçoivent notamment l'aide de l'Australie, Canada, Royaume-Uni, ces choses-là. Ils endossent ces frappes-là. Ils fournissent une aide. Pas nécessairement pour les missiles, mais pour... Excusez-moi les mots moins professionnels, mais pour viser adéquatement. Fait que c'est ça. En fait, pour résumer là, un petit peu, là, c'est que l'action internationale est mitigée. Il y a une difficulté de coordination entre les multiples acteurs. Multiples acteurs qui incluent les acteurs locaux, les compagnies des bateaux, et aussi ceux qui achètent ces biens-là. Donc, il y a une difficulté justement de coordination. Donc, il n'y a pas de réelle réaction justement à la crise de la mer Rouge, à part contourner, augmenter un petit peu la sécurité des bateaux et faire des frappes sur les outils qui ne les découragent pas vraisemblablement. Donc je suis bien curieux de voir en fait ce qui va arriver. Est-ce que les outils vont augmenter justement leur attaque? Est-ce qu'ils vont devenir un petit peu plus confiants? Ils vont faire des attaques plus graves? Je nuance quand même, je crois que les outils sont juste très contents de perturber le commerce international en lançant un petit missile ou deux de temps en temps. Bon, c'est plus qu'un petit missile ou deux, on va s'entendre. Mais ils sont méfiants, je veux dire qu'ils sont méfiants d'un plus gros conflit. Leur but, c'est de perturber, c'est d'être dérangeant et de s'affirmer justement dans le monde arabe comme étant des anti-occidentaux. C'est ça, mais je crois qu'on doit s'attendre quand même à plusieurs mois de perturbation parce qu'il va clairement pas avoir un débarquement justement des forces américaines dans cette région-là. Je sais pas si mes collègues ont justement entendu parler un petit peu de cette crise-là ou qui connaissent justement parce que la piraterie justement dans cette zone-là, c'est pas nouveau, mais la crise de la mer Rouge, c'est comme ça se remet un petit peu là-dedans. Là. Je suis curieux d'entendre votre opinion par rapport à ça. Là.
Ben, je vais commencer. Dans le fond, comme tu disais, la région où s'est située la crise, c'est une région qui est très... où il y a beaucoup de piraterie. Dans les années récentes, il y a la Somalie, entre autres, qu'il y avait eu une coalition internationale menée par les Américains, entre autres, d'intervention. On sait, justement, pour revenir sur un point que tu as mentionné dans ta chronique, c'est quand même des coûts assez importants, tout ce qui est assurance, transport, pour éviter la piraterie. Là, ça va du quart de million à 600 000 et même plus. Là.
Ouais, c'est ça, exactement. Là, c'est, justement, j'ai essayé de voir là, qu'est-ce qui était la meilleure façon de donner un impact réel. Mais t'sais, justement, là, je rappelle là, ce que j'avais dit en 2021 quand que le conteneur avait bloqué totalement là, le commerce pendant 6 jours. C'est 6 à 10 milliards de pertes là, pour 6 jours. Donc là, en ce moment, là, juste pour préciser, il y a encore des bateaux qui passent là, par le canal de Suez. C'est juste que il y a certaines compagnies qui préfèrent éviter. Il y a une grande réduction là, justement du trafic à cet endroit-là, mais donc c'est justement pour ça que c'est aussi difficile de justement estimer c'est quoi les coûts, parce qu'ils font simplement justement contourner par le cap de Bonne-Espérance, tandis que lorsque c'était complètement bloqué, ben il y avait des bateaux qui étaient pris justement dans les environs, ils pouvaient évidemment pas reculer.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que la mer Rouge, c'est donc un important lieu de transit de marchandises, donc un important lieu économique. Donc voilà, c'est pas pour rien que les impérialistes envoient des bombes sur le Yémen, ripostent, je fais des guillemets, hein, vous le voyez pas, mais sur la région du Yémen, bah c'est pour protéger des intérêts, hein, pour leur profit, bien évidemment. Est-ce que c'est la solution la plus judicieuse, bon, pour leurs intérêts à eux, j'imagine que oui. Pour la situation globale, pas nécessairement, parce que voilà, vous êtes, enfin. On est tous au courant maintenant de la situation terrible qui a lieu en ce moment à Gaza. Et donc, voir l'impact des impérialistes à nouveau sur la région du Moyen-Orient, ça pourrait en fait créer peut-être même plus, enfin, à nouveau une escalade entre toutes ces régions-là. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est la Grande-Bretagne et les États-Unis qui ont riposté sur le Yémen, mais que la plupart des autres impérialistes occidentaux ont soutenu l'action, notamment la France ou le Canada. Donc c'est intéressant aussi de voir, quand des intérêts économiques sont en jeu, la vitesse de réaction des pays impérialistes. Voilà, qui réagissent un petit peu moins pour protéger d'autres populations qui sont pas très loin non plus et qui subissent certaines attaques.
Ok, si tu me permets, ouais, c'est ça, Enzo, parce que c'est ça une nuance que tu m'as fait penser à apporter. Clairement, les États-Unis, ils sont pas en train d'augmenter leur cote justement dans cette région-là. Là. Déjà que les États-Unis, clairement, ils sont pas appréciés dans cette région-là. Là, en plus, ils continuent, puis de nous, justement, ben, je dis nous parce que je nous considère en Occident, là, les Houthis sont considérés comme des terroristes là, par beaucoup de pays, justement. Là. Je crois que le Canada hésite encore, là, justement, corrigez-moi mes collègues si jamais, mais je pense que c'est ça, le Canada hésite encore à déclarer les Houthis comme étant une organisation terroriste, ouais. Mais les États-Unis les ont déclarés comme étant des terroristes. Dans le monde arabe, c'est pas ça la réalité. Les Houthis ne sont pas considérés comme des terroristes. Par certains. Et en fait, ils sont plusieurs personnes dans le monde arabe acclament un petit peu ce que les Houthis font, qui se laissent pas piler sur les pieds, justement. Donc, il y a une nuance par rapport à ça. Puis évidemment que. Mais tu sais, en tout cas, on voit la réaction des États-Unis quand tu touches à leurs biens puis au bon transit commercial. Ouais. Tu sais, puis justement, c'est ce que je parlais justement sur ma chronique sur Taïwan. Encore une fois, ils veulent un bon maintien en maintenant le statu quo avec Taïwan. Ils maintiennent le bon transit justement commercial et ils veulent que ça reste comme ça. Là.
Brièvement, juste pour revenir sur ta chronique sur Taïwan, qu'est-ce que tu penses, advenant une élection de M. Trump lors de la présidentielle, qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec Taïwan?
Je crois que je vais faire ça vite là, parce qu'on va devoir vous laisser, ouais, dans pas longtemps pour la pause. Mais je crois que Trump, là, on l'a vu, là, c'est gros bonhomme bourru, il va pas se laisser piler sur les pieds. Puis je pense que ça va rester justement avec Taïwan. Là. Je pense qu'il est pas si fou pour dire que pour s'endormir justement sur la valeur de Taïwan. Donc il va avoir peut-être pas réitération qui va déclarer la guerre à la Chine si la Chine attaque Taïwan, mais clairement un maintien du statu quo, ça c'est clair.
Des sanctions économiques et diplomatiques, mais ça serait compliqué d'imaginer, ouais, une crise d'insécurité entre les États-Unis et la Chine.
Ouais.
Bon, merci pour cette chronique. On va vous laisser avec une page de musique et on se retrouve pour une entrevue